Alors, comme je le disais tout à l'heure, juste avant la pause, on parle d'un sport collectif, évidemment au hockey, mais il y a des défis individuels, gagner les batailles, et il y a des défis également au niveau mental pour être prêt à les gagner et peut-être en perdre des batailles, comment se relever. On parlait de la capacité de Marc-André Fleury de rebondir. Il le disait lui-même qu'auparavant, un mauvais but, comme il a donné dans l'avant-dernier match en fin de première période, l'aurait terrassé pour un certain temps. Aujourd'hui, il se relève beaucoup plus vite. Et comme Carey Price le pratique, je pense que tous les gardiens ont la même approche, là, c'est de vivre dans le présent un tir à la fois, puis à un moment donné, ben, à force de se le répéter, ça entre dans la tête. Alors, c'est l'un des enjeux de cette série-là. Il y en a plusieurs si on prend ça individuellement ou même dans certains plans ou dans certains aspects collectivement. Avec nous, c'est un grand plaisir de l'accueillir à nouveau à l'émission ce soir, notre collaborateur, préparateur mental et Jean-François Ménard qui est avec nous. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Mario, ça va bien?
Ça va très bien, puis je suis content d'aborder ces questions-là avec toi parce que c'est fascinant d'entrer dans la tête des athlètes. Et je commence avec Marc-André. En partant, même si c'est pas un joueur des Canadiens, t'entends, écoute, tout le monde parle de Marc-André qui a pas des bonnes stats contre les Canadiens de Montréal. Si t'es toi le préparateur mental de Marc-André Fleury, t'es dans l'environnement des Golden Knights de Vegas, puis tu sais ça. Est-ce que tu l'abordes, t'attends de voir les premiers résultats? Comment t'abordes ça?
Ben écoute, moi je suis un partisan du Canadien, fait que je travaillerais pas avec Marc-André pour commencer. Puis moi j'espérais qu'il croit à ces tendances-là puis que ça l'affecte. Mais pour venir au sérieux, si j'étais responsable de Marc-André, tu sais, moi je suis un grand croyant, Mario, de porter attention à ce qui se passe en ce moment. Tu sais, c'est une affaire du passé, ces performances quand je jouais pour le Pingouin contre le Canadien. Puis oui, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Mais en même temps, c'est pas la même équipe. Le CH a beaucoup changé, puis le défi qu'il affronte actuellement n'est pas le même défi qu'il affrontait à l'époque. Donc, moi, ce serait vraiment de lui repasser des belles séquences positives de son dernier jeu, parce qu'il joue quand même très bien en ce moment, puis de surtout se fier sur la tâche. Puis, tu sais, il y a tellement de statistiques avancées que les gardiens utilisent quand ils se préparent pour affronter une nouvelle équipe. Tu sais, il connaît les tendances des francs-tireurs du Canadien, puis de plus en plus qu'il se concentre là-dessus. Mais de plus en plus, qu'il peut tout simplement faire sa job.
Donc, toi, tu serais pas, si tu étais dans l'environnement des Golden Knights de Vegas, sa chance-là, puis tout le monde dit ça là, avant la série, tu serais pas préoccupé. Sans que tu sois en contact direct avec la tête, mettons, tu es dans le personnel de coach, là, puis le coach dirait, puis tu penses-tu que Marc-André Van Gaudin est solide? Qu'est-ce que tu dirais? Oui.
Moi, je serais pas trop préoccupé. Moi, ce que j'encouragerais les entraîneurs de Vegas à faire attention, c'est que si jamais Marc-André joue pas un bon premier match, ce que je trouve qui est un peu une mauvaise tendance au hockey, c'est qu'on remplace le gardien assez vite, surtout en série. Mais il n'y a rien de pire pour un gardien. Tu sais, tu peux en jouer une mauvaise, puis tu peux rebondir rapidement, puis ensuite en jouer 3-4 d'affilée comme il faut. Donc, s'ils choisissent vraiment Marc-André de commencer la série, moi, j'encouragerais les entraîneurs, on reste avec Marc-André, donnez-lui une chance, puis c'est pas un match qui va dicter la série. Puis c'est un professionnel, puis c'est un batailleur, Marc-André, donc moi, je ne suis pas inquiète qu'il va bien performer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas qu'il performe trop bien parce qu'on veut évidemment que notre CH puisse gagner.
Ben Jean-François, là, tu vas être plus à l'aise. Là, je vais te mettre dans l'équipe du CH. Là, tu es dans l'environnement du Canadien de Montréal. Puis là, tu travailles pour notre équipe. Tu es préparateur mental. Puis là, on te questionne. Puis là, le fait de jouer devant un gros public qui sera survolté, déchaîné. Ça fait un an et demi, toi, tu joues devant des gradins vides. Tu as eu une coupe de match en 2005. Là, mais tu sais, c'est pas la même affaire. Y a-t-il un enjeu de peut-être d'être trop survolté ou pas? Je veux dire, c'est une préoccupation pour l'aspect psychologique de la performance?
Ta question est intéressante, Mario, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question depuis les derniers jours. Moi, je pense pas que ça va être un problème. Est-ce que ça va être un choc? C'est sûr que ça va être un choc parce que ça fait un bout que le Canadien a vécu ça. Mais pour moi, choc n'égale pas nécessairement négatif. Tu sais, tout joueur de hockey veut jouer devant une foule. Que ce soit une foule chez toi ou une foule ailleurs, tu sais, d'avoir de l'ambiance, puis surtout à Vegas, c'est un spectacle, c'est exceptionnel jouer là. Donc, moi, je pense qu'il y a un concept d'excitation qui va être très bien pour le Canadien, tu sais, d'être excité, jouer devant une grande foule, même si c'est pas leur propre foule. Puis tu sais, autant que c'est génial pour Vegas d'avoir leur foule de presque 20 000 partisans qu'ils encouragent lorsqu'ils marquent des buts, mais le feeling pour le Canadien de marquer un but puis que c'est silencieux, l'effet psychologique est exceptionnel. Fait que je pense qu'ils vont jouer avec ça. Moi, je suis pas trop inquiète. Okay. Puis, si j'avais à faire un travail spécifique avec les athlètes, moi, je ferais beaucoup de visionnement vidéo. de les faire plonger dans des anciens matchs qu'ils ont joués où est-ce qu'on entend des foules vraiment, tu sais, qui sont vraiment bruyantes puis qui peuvent peut-être être dérangeantes, juste pour minimiser le choc pour quand ils arrivent dans le match.
C'est bon ce que tu dis. C'est bon, JF, ce que tu dis.
Un peu la situation.
C'est-tu pourquoi? Ouais. Parce que Maxime, je parlais de ça avec Maxime et Guillaume, les gars de la Poche Bleue, en début d'émission, puis Maxime disait, tu sais, une fois, c'est pas évident là, de faire ça automatiquement, mais de je sais pas jusqu'à quel point tu peux amener un athlète à décortiquer les choses, tu sais, puis à se programmer, c'est-à-dire de. Donc, tout ce qui vient du bruit de foule, c'est juste de l'amplification. Ça n'a rien à voir avec les mouvements de rondelles, avec ton coup de patin, etc. C'est des feux d'artifice autour. Es-tu capable de te couper de ça, de prendre le bon de ça, c'est-à-dire que oui, les jambes y vont, puis t'as peut-être un petit 10% de hargne, de désir de plus, mais que le reste ne te paralyse pas.
Ben tout à fait. Puis je pense que les athlètes doivent se rappeler qu'ils ont déjà vécu ça dans leur carrière. C'est pas parce qu'on l'a pas vécu depuis plus d'une année qu'on a oublié comment jouer devant une foule. Puis c'est pour ça que je pense que l'utilisation de la vidéo, l'utilisation de la visualisation aussi, tu sais, de s'imaginer dans ce contexte-là. Puis ils savent qu'est-ce qui s'attend lundi pour le premier match. Ils vont avoir des gros spectacles en début de match, puis qu'il va y avoir beaucoup de bruit, puis que la foule de Vegas est particulière, là, on la connaît. Puis la visualisation, des fois, on oublie à quel point que c'est un outil extraordinaire parce que ça nous permet de vraiment vivre la situation sans être là pour le vrai. Puis quand on arrive dans le contexte, on a comme l'impression de l'avoir déjà vécu un petit peu. Fait que moi, c'est ce travail-là que je ferai avec le Canadien. Mais je reviens à mon commentaire original. Moi, je pense qu'il va y avoir plus de l'excitation, plus que de la frayeur, plus
d'avoir
peur. Fait que moi, je pense pas que ça va être négatif pour le CH.
Alors, j'aime ça nous faire peur un peu, Jean-François, comme ça, la victoire n'en sera que plus grande.
Hein? Effectivement.
Avant qu'elle s'empérille. Un autre élément, est-ce que tu, selon toi, tu as travaillé avec des athlètes dans divers milieux, est-ce qu'ils sont tous superstitieux? Est-ce que, entre superstition et routine pour sécuriser l'athlète, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Bon, donc, les superstitions, c'est correct. D'en avoir, j'ai rien contre ça. C'est juste que l'athlète doit comprendre qu'il y a une différence entre une superstition et ce que j'appelle une routine de préparation. Une routine de préparation, pour moi, c'est une série d'activités ou d'exercices que tu vas faire qui va te préparer physiquement et mentalement pour ton match. S'il y a des superstitions qui font partie de ça, comme par exemple absolument mettre ton patin gauche avant le patin droit, il n'y a rien de mal avec ça. Ça nous amène dans une ambiance parce qu'on est confortable, qui est connue. Mais ce que je challenge les athlètes, cependant, c'est que supposons que tu étais bas chanceux, puis pour toi, tu peux juste bien jouer avec ces bas-là, puis pour X raison, je sais pas, moi, tes bas sont pas dans ton sac d'hockey, si tu te fies là-dessus pour bien jouer, mais là c'est un problème.
T'as un problème, là. En as-tu vu des athlètes qui étaient prisonniers de leur routine?
Pas prisonniers. Pas ceux avec qui moi j'ai travaillé. J'ai déjà entendu plusieurs histoires. Mais tu sais, de faire comprendre à l'athlète que c'est pas ces objets-là ou c'est pas ces séquences-là qui vont garantir qu'ils vont bien jouer. Pour moi, c'est vraiment plus des activités, tu sais, de faire vraiment un échauffement adéquat physiologiquement pour réveiller le système nerveux, pour s'assurer d'être prêt pour la tâche physiologique que tu vas affronter pendant le match. Ou tu sais, d'utiliser la respiration consciente pour se calmer avant. Ou tu sais, des choses qui sont vraiment en lien avec la tâche qui s'en vient. Si tu mets ton patin gauche en premier avant le patin droit, tu peux quand même patiner assez bien puis shooter le puck. Fait que pour moi, c'est vraiment de l'éducation par rapport à ça. Mais je m'apprête aussi à dire, ou je veux vous rappeler que c'est correct d'avoir des superstitions. Il n'y a rien mal avec ça. Parce qu'on peut s'amuser avec ça, ça peut nous détendre. Mm-hmm. Mais il y a une grande différence entre ça puis vraiment une routine qui est vraiment préétablie par rapport à être prête à ce que on doit affronter physiologiquement et mentalement par rapport au match.
Certains de nos auditeurs et auditrices les plus âgés se souviennent que certaines superstitions peuvent mettre le feu aux poudres. On se rappelle de la croyance que Claude Lemieux avait de finir la période de réchauffement en envoyant une rondelle dans le but adverse. Et ça avait été à l'origine d'une mêlée mémorable d'avant-match contre Dave Brown et les méchants Flyers dans le temps. Des scènes qui traînent encore sur YouTube et qu'on regarde aujourd'hui, c'est drôle parce que tu sais, on voit plus des situations comme celle-là. Tu as dit le mot respiration consciente, Jean-François. J'aimerais ça, juste bien vite, une petite parenthèse. C'est quoi ça, la respiration consciente en termes de préparation mentale?
Ben oui, mais en fait, souvent, on pense que de bien respirer, c'est de faire de la méditation. Tu sais, faut se concentrer sur notre respiration pendant 5, 10, 15 minutes. Puis oui, c'est très utile. Si tu peux prendre 5, 10, 15 minutes pour le faire. Mais si on prend le hockey, un athlète n'a pas 5-10 minutes pendant un match pour apprendre à se calmer sur demande. Fait que pour moi, la respiration consciente, c'est d'être conscient de ta respiration pendant un 30, 60, 75 secondes, dépendamment le montant de temps que ça soit sur le banc ou le temps que tu veux utiliser entre les périodes dans le vestiaire. Mais c'est d'apprendre à pouvoir calmer son système nerveux, de pouvoir flusher sa tête, de pouvoir être dans le moment présent de façon automatique, sur demande. Puis c'est pas facile de faire, surtout qu'on est émotionnel. Puis moi, j'ai ma clientèle de joueurs de hockey, je leur dis toujours, un des moments les plus importants dans un match, c'est pas sur la glace, c'est sur le banc. Parce que sur le banc, c'est le moment où est-ce que tu arrêtes, que des fois tu vas beaucoup réfléchir, des fois tu vas trop réfléchir, tu vas penser à des choses qui vont pas t'aider. Mais c'est un moment extraordinaire pour apprendre ce qui vient d'arriver, de laisser ça de côté, puis ensuite te préparer pour ce qui s'en vient. Puis selon moi, de pouvoir faire une bonne analyse de ce que tu viens de faire, sans prendre un moment pour te calmer, c'est risqué. Parce qu'on a tendance à dramatiser, on a tendance à exagérer, puis à voir la situation de façon subjective, pas de façon objective. Tu sais, on la voit, des fois, on la voit pas comme qu'elle est. Fait qu'on va exagérer, surtout qu'on fait une erreur. On revient sur le banc, puis on va exagérer notre erreur, puis c'est vraiment la fin du monde. Fait que moi, je challenge ma clientèle, aussitôt qu'il arrive.
C'est une façon d'effacer, puis de vivre dans le présent un petit peu, hein, je pense, JF, en 10 secondes.
J'utilise vraiment la métaphore de flusher comme une toilette.
Bon, ben,
ce qui va dans la toilette, c'est pas bon, puis on veut pas le laisser là, on le flush. Fait que, des fois, du point de vue psychologique, la respiration fait la même chose, puis ça fait du bien.
T'encourages la mémoire courte pour les athlètes, puis je pense que c'est vrai dans la vie également, quand on a eu un petit moment qui était moins heureux. Jean-François, merci beaucoup. On se reparle, on suit la série ensemble. On va regarder les enjeux qui touchent la préparation, l'aspect psychologique, puis au plaisir de se reparler là, au fur et à mesure que ça avance.
Au plaisir, Mario. Bon week-end.
Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi. Dans quelques instants, l'Italie a gagné le match d'ouverture de l'Euro 2021. Jérémy Filosa est allé regarder ça. Où vous pensez? Ben oui, dans l'Italie. On lui parle dans un instant.